présenté par Perrine Kervran
et préparé par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Aujourd'hui, c'est le scoutisme et la figure de Robert Ganzon qui sont au sommaire de l'émission. Castor Soucieux était le surnom scout de Robert Ganzon, qui est le fondateur des éclaireurs et éclaireuses israélites de France, les EIF, qui viennent de republier un texte de Robert Ganzon dans lequel il pose les grands principes d'un scoutisme juif, d'un rapport harmonieux avec la vie, la société, la nature et la spiritualité. Les éclaireuses et éclaireurs israélites de France se veulent un mouvement pluraliste où toutes les tendances du judaïsme se retrouvent autour d'un minimum commun de pratiques religieuses et s'inscrivent dans l'histoire des mouvements de jeunesse qui sont nés dans la première moitié du XXe siècle et qui se veulent porteurs de valeurs pour les jeunes. Des jeunes qui se devaient d'être de bons camarades, d'aimer les choses simples et d'avoir un esprit sain, dans un corps sain, au contact permanent de la nature. Avec nous pour en parler, Benjamin Bitane, qui est responsable de la formation aux EIF. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, peut-être, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les éclaireuses et éclaireurs israélites de France? Tout le monde ne connaît pas ce mouvement.
Oui, alors aujourd'hui, donc, les éclaireuses et éclaireurs israélites de France est le premier, enfin le plus important mouvement de jeunesse juive. Sa spécificité est d'être un mouvement de scoutisme. Globalement et très synthétiquement, le scoutisme, donc, c'est un mouvement qui a plus de 100 ans maintenant, et qui a pour but de faire des jeunes, des citoyens engagés dans la cité, au sens grec du terme, et dans les communautés dans lesquelles ils viennent, à travers la responsabilité, l'autonomie, la vie dans la nature, la progression personnelle. Et donc, nous sommes donc la branche juive, on va dire, du scoutisme en France, membre fondateur de la Fédération du scoutisme français, une fédération qui est reconnue donc, par l'État, et par l'Organisation mondiale du mouvement scout. Voilà, c'est pour la présentation un peu synthétique, peut-être plus historique. Les EIF sont nés en 1923, donc à l'initiative donc de Robert Ganzon, donc dont on parle aujourd'hui. Il a 17 ans lorsque, en observant, en fait, il est dans le Massif Central, il est en cure parce qu'il a quelques soucis de santé. Il observe des éclaireurs unionistes, donc des éclaireurs protestants. Il se dit, tiens, je devrais aussi créer la même chose pour des jeunes juifs. Et c'est l'idée qu'il a eue. Et très rapidement, donc le mouvement a pris. Les jeunes ont trouvé ça bien de faire du scoutisme, d'être dans la nature, d'avoir des activités, de prendre des responsabilités. Et le mouvement là, s'est structuré petit à petit avec des antennes dans différentes villes en France ou même dans le protectorat français ou dans l'économie française comme en Algérie. Aujourd'hui, donc, les EIF, c'est à peu près 4000 membres actifs, avec une quarantaine de groupes locaux en France, une vingtaine à Paris, région parisienne, et une vingtaine dans les grandes villes de France où des communautés existent. Donc on propose des activités à des enfants entre 8 et 17 ans, donc répartis en trois tranches d'âge. Et à partir de 17 ans, donc, nous avons nos animateurs, qui est entre 17 et plus, avec des formations BAFA ou des formations plus spécifiques sur notre projet éducatif. Les EIF, c'est aussi donc à peu près entre 2 et 3 activités par mois, des week-ends, des camps d'hiver et des camps d'été, soit en France, soit à l'étranger pour les 15-17 ans qui mènent des projets humanitaires à l'étranger.
Alors peut-être on peut revenir un peu avec vous, Benjamin Bitane, sur la figure de Robert Ganzon. Et peut-être vous nous parler un peu de cet homme qui effectivement a fondé ce mouvement alors qu'il était très jeune. Pourquoi est-ce qu'il avait, à votre avis, un intérêt comme ça pour le militantisme juif, ce jeune homme de 17 ans?
Moi, je pense que c'est Robert Ganzon est malheureusement peut-être quelqu'un trop peu connu de la communauté juive en France et même, je dirais même, en France en général. Pour moi, c'est un vrai visionnaire, un vrai rêveur qui voulait créer un monde nouveau, une jeunesse nouvelle. Il y avait à l'époque, en 1923, lorsqu'il avait à peine 17 ans, je ne sais pas si vous imaginez, quand même maintenant plus de 88 ans après la création, le mouvement est toujours là, il est périn, il est porteur de ses valeurs. Et donc à 17 ans, il s'est dit, je vais donner la possibilité à des jeunes juifs qui n'avaient pas spécialement de mouvement de jeunesse à l'époque. D'être acteur, je dirais, de la société, acteur de la communauté juive de France. Et c'était son idée. Donc il avait plusieurs qualités, je pense, très importantes qui ont fait le succès du mouvement et ce qu'il est encore aujourd'hui. Un, c'était, et on a rencontré, en fait, il se trouve qu'on a rencontré ses petits-enfants, alors ses enfants, excusez-moi, il y a un mois. Et il avait plusieurs qualités. Un, la force du compromis. Il a toujours su faire en sorte que des tendances différentes au sein du mouvement ont pu cohabiter. Il savait parler aux gens, alors que tout le monde nous dit que la première, enfin, les personnes qui l'ont connu, quand on le voyait comme ça de prime abord, c'était un petit monsieur, plutôt chétif, qui apparemment n'était pas très très charismatique, mais il avait cette force de, voilà, de savoir parler aux jeunes, de savoir dénicher aussi les personnes importantes qui allaient pouvoir aider à construire le mouvement. Et il avait aussi, en termes de, je dirais, d'idéologie, de valeurs, de rêves, de vision, quelque chose d'assez particulier, assez typique, enfin atypique plutôt. Il avait pour moi une espèce de, je dirais, de rêve messianique, entre guillemets. Il voulait par exemple le retour à la Terre, il trouvait ça extrêmement important, il le cite beaucoup dans son livre Tivliout. Le fait de se dire que voilà, malheureusement pendant plus de 2000 ans, dans beaucoup de pays du monde, les Juifs n'avaient pas eu le droit à accéder à la propriété de la Terre, et pour lui c'était extrêmement important de revenir à la Terre, de ne pas être seulement dans un espèce de judaïsme, on va dire, très intellectuel, qui se penche sur des livres, mais aussi des choses très pragmatiques, très pratiques, voilà, de mettre ses mains dans le cambouis, entre guillemets, et de retourner à la Terre. C'est pour ça que, par exemple, les EI avaient, un peu avant la guerre, des camps ruraux. Pendant toute la période de la guerre, les EI ont eu des fermes, comme à Lautrec ou autre. Ça, c'est une première idée un peu messianique, on va dire, de Robert Gamzon.
Oui, c'est la devise, effectivement, enfin, une citation qui revient souvent, c'est « soit un bâtisseur et non un discuteur ».
Exactement. Ouais, c'était très important pour lui de ne pas être seulement dans la discussion, dans des hautes sphères, on va dire, philosophiques, mais d'ancrer toutes ces choses dans le réel et dans la réalité. Et c'est quelque chose que nous, aujourd'hui, les EI actuels, on essaye d'être porteurs, quoi, et on essaye de concrétiser toutes nos idées et toutes les valeurs qui nous sont, les enjeux qui nous semblent être importants pour la jeunesse aujourd'hui.
Oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup dans les textes, hein, notamment dans Tivliout, cette importance du travail manuel, cette importance de produire quelque chose, cette importance du retour à la terre. On voit bien aussi l'affiliation avec les pionniers et le fait qu'ensuite Robert Gamzon est allé en Israël participer donc au mouvement des kibbutz. Effectivement, on voit qu'il y a vraiment cette idée des pionniers qu'on retrouve dans l'idéologie pionnière des années 40.
Tout à fait, tout à fait. C'était vraiment quelque chose de très très important pour lui. Et pour parler justement des kibbutz, justement, donc Gamzon est parti donc en 1947, si je ne me trompe pas, donc en Israël. Et il voulait aussi fonder un kibbutz EI. C'était son idée première. EI, enfin, quelle était peut-être la spécificité d'un kibbutz EI? L'autre idée, pour moi, spécifique de Gamzon, c'était le pluralisme. Il était extrêmement attaché au fait qu'au sein du mouvement, au sein de son mouvement, pouvait cohabiter des jeunes juifs qui avaient des opinions politiques, religieuses, qui venaient de mouvements sociaux, de milieux sociaux différents, qui venaient de zones géographiques différentes, des Ashkénazes, des Séfarades, des juifs de Pologne, des juifs d'Allemagne. Et ça a été vraiment quelque chose de très très fort pour lui. Et c'était son rêve de créer un kibbutz EI, parce qu'il avait l'impression que ça y est, il avait réussi peut-être à arriver à cela en France. Il voulait apporter sa pierre à l'édifice, à la construction de ce jeune État, en essayant de créer une société israélienne qui se voulait avec des ponts entre ce qui pourrait être source de différence et d'éloignement. Malheureusement, il n'a pas vraiment réussi. Ça a été une des grosses tristesses, un gros échec pour lui dans sa vie. Il n'a pas réussi concrètement à arriver à fonder cette espèce de kibbutz EI, voire plus, s'il avait pu le faire.
Oui, je pense qu'il faut, Benjamin Bitten, de revenir justement sur cette question du pluralisme et du fait que les éclaireurs se disaient donc bâtissent et se disent encore bâtisseurs d'identité. Donc c'était l'idée de prendre conscience de sa judéité, de prendre conscience de toutes les facettes de cette judéité et cette idée donc de se réunir autour d'un minimum commun. Alors est-ce que vous nous parlez un peu de ce minimum commun qui est très important au sein des EI?
C'est fondateur chez nous, c'est vraiment un point extrêmement important. Donc après 1923, donc le mouvement, comme je disais tout à l'heure, se développe assez rapidement, et au bout d'une dizaine d'années, oui, on pourrait dire ça comme ça, un peu moins, Robert Gamzon se retrouve face à la situation où il y a des groupes scouts éclaireurs israélites un peu partout en France, Avec des tendances d'un point de vue du judaïsme extrêmement différents. Entre, à l'époque, les Ezeïs parisiens et les Ezeïs de Strasbourg ou de Nice, il y a des vraies différences en termes de pratique du judaïsme, de revendication de l'identité juive. Et comme je le disais tout à l'heure, donc, la force de Gamzon, qui était une des ses forces, qui était le compromis, réunie donc, en 1932 au Conseil national. Alors le Conseil national, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est la grande instance, on va dire, démocratique du mouvement, où les EI rediscutent des orientations de celui-ci. Et donc ce sujet arrive sur le tapis. Pour faire en sorte qu'on garde un mouvement unifié, Gamzon et un autre personnage très important de l'histoire des EI qui s'appelle Frédéric Hamel, dit Chameau, son nom de totem, propose de créer un minimum commun de pratique, c'est-à-dire que tout le monde fera un effort, un compromis vis-à-vis de l'autre, soit donc le moins pratiquant vers celui qui est plus pratiquant et le plus pratiquant vers celui qui est moins pratiquant, pour avoir une pratique collective commune. Et si des gens veulent faire plus, à ce moment-là, c'est de l'ordre du particulier, de la personne, et non de l'ordre de la collectivité. Et ça a permis à ce que jusqu'à aujourd'hui, les EI est un mouvement qui embrasse, en termes de famille, de jeunes qui fréquentent notre association, un public extrêmement pluriel, extrêmement varié. Les EI sont présents à la fois dans des communautés consistoriales orthodoxes, comme dans des communautés conservatives ou dans des communautés libérales. Et tout ça fait bon ménage, et c'est le même mouvement qui prône les mêmes valeurs, où il se passe, en termes de projet éducatif, est exactement le même. Les activités sont... Voilà, il n'y a pas de différence majeure. Et ça, voilà, ça c'était un point qui était extrêmement important pour Gamzon, le minimum commun et le pluralisme en général.
Alors, il y a d'autres éléments qui sont très importants dans les EI, notamment si on revient au début de ce mouvement, donc, dont la devise au départ était « Servir Dieu, le judaïsme et la France ». Il y a la question du patriotisme qui a beaucoup compté, puisque les EI ont été un mouvement très résistant et qui a résisté aussi bien pour cacher des enfants, cacher des familles, faire des faux papiers, mais aussi qui a résisté dans le maquis, c'est-à-dire qu'il y avait une part très importante du patriotisme aussi dans les EI.
Quand notre slogan est de dire « bâtisseur d'identité depuis 1923 », elle n'est pas seulement liée à l'identité juive, mais elle est aussi liée à la citoyenneté. C'est un élément extrêmement important pour nous. Les EI est un mouvement, et le seul finalement mouvement de jeunesse de la communauté juive franco-français, qui est né en France et qui... Voilà. Et effectivement, dès le départ, les EI avaient toujours cette... l'importance de servir la France, son pays. Alors, les faits d'armes les plus connus, effectivement, sont pendant la Seconde Guerre mondiale, où les EI ont été extrêmement actifs dans, au début, aider les réfugiés qui arrivaient en France, les intégrer, leur trouver du travail, de quoi se nourrir, se loger, etc. Puis, en zone libre, donc on avait des maisons d'enfants, la plus connue étant la maison de Moissac, à côté de Toulouse. Et puis, au moment où la zone libre a été aussi envahie par les Allemands, donc il a fallu cacher ces enfants, leur faire passer à la frontière en Suisse, en Espagne, les placer, ça voulait dire aussi parfois aller les rencontrer pour voir si tout se passait bien, leur donner des nouvelles du mouvement, leur permettre, même s'ils étaient cachés, parfois ils devaient cacher leur judaïsme qui conserve quelques bribes de judaïsme, on va dire, pendant cette période-là. Et ensuite, un groupe autour de Robert Gamzon et d'autres personnes s'est constitué à côté de la ville de Castres et a créé ce qu'on appelle le Maquis EI, où les EI ont participé à la libération de la ville de Castres et de la ville de Mazamé, avec entre autres la fameuse attaque du train, voilà, où les EI en fait, ont été extrêmement actifs dans le fait... Ils ont fait sauter en fait, un train allemand qui allait ramener des armes pour aider les Allemands, les nazis, à garder la ville de Castres.
Alors justement, dans cette continuité, si on revient à ce livre, donc Tiv Liout, qui ressort là, ce petit livre qui est un peu un mode d'emploi finalement des EI, on voit que cette guerre compte beaucoup. C'est un livre qui a été écrit après-guerre. On voit qu'il y a une trace très forte de la Shoah, de la résistance, d'un esprit de... Voilà, de ce que vous dites, d'un souci de la citoyenneté, de l'action dans la société. Et on voit effectivement que ce souci va se traduire aussi dans la formation des cadres, c'est-à-dire que c'est aussi un mouvement de l'après-guerre, dans le sens où il faut réparer, où il faut aider ces enfants qui sont orphelins, et puis former des cadres qui pourront essayer de reconstruire cette identité juive qui a été mise à mal par la guerre.
Exactement. Robert Gamzon et donc la plupart des cadres de l'époque, pendant la guerre, se dit, voilà, ils sont eux, Robert Gamzon était conscient de ce qui se passait. Il savait parce qu'il y avait beaucoup de liens avec des gens de l'administration à Vichy. C'est comme ça qu'on a pu sauver d'ailleurs beaucoup d'enfants, parce qu'on était souvent au courant avant qu'il y allait avoir des rafles. Et donc il sait très bien que, voilà, au sortir de la guerre, la plupart des cadres de la communauté juive en France ne seront plus là. Et là, il se dit, je vais faire en sorte que mon mouvement, qui prône la prise de responsabilité, qui prône le fait d'améliorer le monde, la communauté, etc., va être le vivier des gens qui vont reconstruire la guerre, la communauté juive après la guerre. Et donc, pendant la guerre, ce qui est complètement fou, ce qu'on pourrait dire pendant la guerre, au lieu de penser à l'avenir, on pense au présent, il a l'idée, avec entre autres quelqu'un qui s'appelle Gilbert Bloch, qui a été fusillé, il a l'idée de créer une école de cadres, qui s'appelle l'école d'Orsay, qui est relativement connue dans l'histoire de la communauté juive en France, qu'il crée en 47, il me semble. Et cette école va avoir pour but de recréer à la fois le vivier des cadres des éclaireurs, des éclaireurs israéliens de France à l'époque, et aussi de donner des cadres pour la communauté. Et la formation qui était donnée dans cette école, donc c'était des jeunes qui venaient du mouvement, de France ou d'Algérie principalement, qui donnaient un an ou plusieurs années, et ils étaient formés à la fois en judaïsme, en psychologie, ils avaient aussi des cours sur les grands mouvements politiques de l'époque, le socialisme, le communisme, etc. Et ils devaient s'engager, il y avait même une espèce de promesse, comme la promesse scout, à donner, à la fin de ces années au sein de l'école d'Orsay, donner de leur temps et de ce qu'ils avaient appris au service de la communauté et de la société en général. Et cette école a formé, entre autres, dont la figure la plus connue est Léon Ashkenazi, dit Manitou, qui a été un des grands penseurs de la communauté juive en France juste après-guerre.
Et ces cadres s'occupaient aussi des orphelins qui étaient dans les maisons d'enfants.
Tout à fait, tout à fait. Il y a eu énormément de liens juste après la guerre avec les nouveaux services sociaux de la communauté juive qui ont dû s'occuper de tous ces enfants orphelins, éclosés, entre autres. Donc certains cadres des îles, justement, ont continué ce qu'ils ont fait pendant la guerre, donc en s'occupant des enfants, ont continué ça. Entre autres, Chata Simon, qui dirigeait l'école de la Versine, le château de la Versine, puisqu'elle était, pendant la guerre, donc la directrice de l'école de Moissac, et elle a continué donc à s'occuper des enfants cachés et des enfants orphelins après la Shoah.
Alors, quand on lit ce livre, alors on peut parfois être un petit peu étonné. C'est un livre qui est très daté. On voit en tout cas qu'il est de son époque. Donc, on voit notamment, si on parle encore de la guerre, de la Shoah, le souci de Robert Gamzon de rétablir une meilleure image des Juifs, notamment une meilleure image sociale. On voit que l'antisémitisme a laissé des traces, même au sein de sa décision de renforcer ce mouvement.
J'ai mal à comprendre votre question.
Alors, il y a un moment dans le livre où il dit, voilà, on dit que les Juifs occupent telle ou telle profession, il faut donner une meilleure image des Juifs. Il y a tout un passage comme ça qui, quand on lit aujourd'hui, on est très surpris. Alors, évidemment, quand on lit avec le recul...
Oui, dans le contexte de l'époque...
C'est un autre sens.
Voilà, il voulait vraiment... Créer un juif parfait, un juif d'ailleurs le mot tivliout, harmonie, c'est un mot qu'il a inventé. Il n'existe absolument pas dans un dictionnaire hébreu, vous pouvez le chercher, il n'existe pas. Il a pris un terme inventé par une autre figure importante des îles, la communauté juive de France, qui s'appelait Edmond Flegg, donc un grand poète et un grand écrivain qui était très proche du mouvement. Il voulait créer cette espèce de... Il avait l'impression que les juifs en Europe, en diaspora, étaient... Voilà, du fait du poids de l'histoire de cette minorité qui avait eu énormément de qui n'a pu faire tout ce qu'il pouvait ou voulait faire, faisait des petits commerces, était médecin, ce genre de choses. Et il voulait revenir un petit peu à cette espèce d'idéal biblique, peut-être, d'une société plus à la fois la sagesse juive, une capacité intellectuelle importante et à réfléchir sur le monde, à proposer une certaine vision du monde, mais à la fois capable des fois de s'occuper des petites choses. des petites choses du quotidien. Pour la petite anecdote, quand il était quand Robert Gamzon a fondé l'école donc l'école d'Orsay, il tenait beaucoup à balayer. Dans le sens où c'est pas parce que je suis le directeur, la tête pensante de la structure, c'est pas pour autant que peut-être les tâches qui pourraient paraître besogneuses et basses, voilà, moi aussi j'y suis contraint, et je trouve aussi peut-être du plaisir à parfois à faire des petites choses du quotidien toutes basiques, des choses purement bassement matérielles. Et il voulait faire en sorte que les Juifs ne soient plus seulement des petits commerçants, des choses comme ça, mais des gens capables à la fois de réfléchir et d'apporter leur pierre à l'édifice à l'humanité, mais aussi capables de choses très pragmatiques, et entre autres, voilà, de revenir à des professions ou à des statuts sociaux qui étaient peut-être, qui leur étaient pas possibles auparavant.
Alors il y a d'autres choses qui sont un peu décalées aujourd'hui, notamment par rapport à la femme, la place de la femme, l'image de la femme. Vous haussez le sourcil, effectivement. On peut hausser le sourcil. Donc une femme à l'ombre de son foyer, au service de son foyer, des questions autour de la chasteté, d'une femme qui doit veiller à l'harmonie, au confort moral, la joie par le travail, etc. C'est des choses qui sont complètement décalées. Comment est-ce que vous resituez les EI par rapport à ce discours qu'on peut entendre, évidemment, dans le contexte de l'époque?
C'était à la fois décalé, mais à la fois qu'on regarde un petit peu historiquement... par exemple, les autres mouvements de scoutisme en France, ou même d'autres mouvements de jeunesse... qu'il y avait en France, officiellement, on va dire, les EI est devenu un mouvement de coéducation en 69, quand les éclaireurs israélites de France sont devenus les éclaireuses et éclaireurs israélites de France.
Un mouvement mixte.
Exactement. Les filles étaient avant fédérées par la Fédération française des éclaireuses. Voilà. Maintenant, la spécificité des EI, c'est qu'une part du mouvement vivait déjà en coéducation depuis sa création. Puisque, en fait, toute la formation des cadres, des animateurs et autres, se faisait en mouvement, en coéducation. Il y a toujours eu, au niveau animateur et autres, une vie collective mixte. Ce qui faisait hisser les poils et tirer les cheveux de pas mal de gens dans la communauté ou autre. Ou, par exemple, voilà, à l'époque où les Aïe avaient donc une ferme pendant la guerre à Lautrec, les voisins du coin se disaient « Attendez, des jeunes entre eux qui avaient 17, 18 ans, 19 ans, pas mariés, qui vivent ensemble. » Voilà. Et il y avait cette mixité qui se passait globalement bien et qui était plutôt souhaitée d'ailleurs par Robert Gamzon lui-même. Idem à l'école d'Orsay. Alors effectivement, lui, voilà, il prenait quand même la mixité, mais il avait une vision... peut-être un petit peu désuète aujourd'hui, je sais pas, en tout cas on pourrait se poser la question, d'un système de répartition des rôles, on va dire, entre l'homme et la femme.
Alors peut-être pour finir, Benjamin Bitane, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez eu envie, pour conclure, de rééditer ce texte.
Alors on a eu l'idée de rééditer ce texte. Pour tout vous dire, moi j'avais entendu parler de ce livre, on le raconte dans la nouvelle préface qu'on a faite, et puis un vieil EI qui nous est très cher, c'est Jean-Paul Bader, qui était justement lui aussi résistant, qui a fait cette fameuse attaque du train dont je parlais tout à l'heure, arrive un jour au Centre National et bon, il a deux exemplaires de ce livre-là, et j'avoue publiquement que je lui ai subtilisé un des deux exemplaires. Je l'ai lu et là je me suis dit, mais finalement, 50 ans après l'écriture de ce livre, il est aussi parlant pour notre mouvement aujourd'hui, parce qu'il prône, ce livre et son idée prône des valeurs et des actions qui nous sont extrêmement chères. On veut, le projet éducatif des EI, c'est à la fois de faire en sorte que des jeunes prennent connaissance de c'est quoi aujourd'hui, qu'ils construisent leur identité juive, leur citoyenneté, l'ouverture sur le monde, mais que ce ne soit pas seulement quelque chose, je vais dire, de livresque, une connaissance théorique pour le savoir et pas pour autre chose, mais qui l'ancre dans le réel, qui mette en place des projets, qui se confronte au monde, qui apporte leur pierre à l'édifice, à la communauté, à la société, au monde. Et c'est en cela que pour nous, ça semble être intéressant et important de donner la possibilité aux jeunes générations de pouvoir lire ce livre et de l'appliquer, on va dire, au sein des éclaireuses et éclaireurs israélites de France.
Merci encore. Je rappelle, Benjamin Bitane, donc, que les EI viennent de ressortir donc ce texte, Ivliyout, Harmonie. Alors, comment est-ce qu'on peut se le procurer?
Alors, vous pouvez vous le procurer simplement en appelant notre centre national. Je peux donner le numéro? Oui, au 01 47 83 60-33, où vous pourrez donc vous procurer ce livre.
Merci beaucoup. C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.